Wi-Fi, bienvenue si vous nous rejoignez, 3 heures à Paris, 2 heures en temps universel.
Mathis Limano.
Et à la une, les funérailles d'Hassan Nasrallah au Liban. Des centaines de milliers de soutiens réunis ce dimanche pour un dernier hommage au chef emblématique du Hezbollah, mort dans une frappe israélienne en novembre dernier. Devant une marée humaine, son successeur a juré de poursuivre la lutte contre Israël. En Allemagne, la victoire des conservateurs aux législatives anticipées, la CDU arrivée en tête, son président Friedrich Merz devrait devenir le nouveau chancelier. Le scrutin était marqué par une percée historique de la formation d'extrême droite AFD. Le pape François toujours dans un état critique, c'est ce qu'indique le dernier bulletin de santé du Vatican. Et puis en France, Jordan Bardella en terrain conquis au salon de l'agriculture. Le patron du RN a déambulé dans les allées ce dimanche. Repoussé plusieurs fois en raison de la présence militaire israélienne au Liban, les funérailles d'Hassan Nasrallah ont finalement eu lieu ce dimanche à Beyrouth. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé vers la banlieue sud, des centaines de milliers de personnes. Portrait de l'ex-leader et drapeau du Hezbollah à la main. Un vrai test de popularité pour le parti chiite, très affaibli par la guerre contre Israël. Sophie Guignon, vous avez pu assister à ces funérailles qui marquent un tournant pour le Liban.
C'est une véritable page qui se tourne dans l'histoire du Liban. Hassan Nasrallah a eu droit à des funérailles populaires dignes d'un chef d'État. Des centaines de milliers de Libanais ont afflué de la capitale libanaise, de la vallée de la Beka, mais aussi du sud du Liban, des régions très impactées par la guerre. Le parti chiite a voulu montrer à travers ses funérailles que même s'il est affaibli par la perte de son leader historique, de nombreux combattants, mais aussi par les nombreuses destructions dues à la guerre, il a toujours une assise populaire. Certains Libanais, comme Rania Rahal, sont venus dès l'aube pour avoir une chance d'entrer dans la cité sportive où s'est tenue la cérémonie d'hommage à Hassan Nasrallah. La jeune femme vient de Nabatieh, une ville du sud du Liban dévastée par les bombardements israéliens. Je vous propose de l'écouter.
J'aurais fait n'importe quoi pour entrer. Je suis très triste. Je porterai cette tristesse à jamais. C'est une immense perte. Malheureusement, il n'y aura pas de leader de son calibre avant 50 ans. C'était un chef exceptionnel. On va continuer à se battre car Israël ne comprend que la force.
Dans son discours, le successeur de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem, a dit que le Liban faisait, je cite, « face à une nouvelle occupation » car Israël conserve des positions dans le sud du Liban. De quoi continuer à fédérer ses partisans pour le Hezbollah. Pendant la cérémonie, l'aviation israélienne a survolé par deux fois la cité sportive à très basse altitude pour intimider la foule. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Israël se dit prêt à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza. La première phase du cessez-le-feu est censée prendre fin le 1er mars. Mais les négociations prévues pour la suite n'ont toujours pas démarré. Et la décision israélienne de ne pas relâcher plus de 600 prisonniers palestiniens fragilise un peu plus la suite du processus. Le premier ministre Benjamin Netanyahou pointe du doigt les cérémonies humiliantes autour des libérations d'otages à Gaza. Le Hamas, lui, dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu. Le feu. En Allemagne, le retour au pouvoir des conservateurs, la CDU de Friedrich Merz, appelée à devenir chancelier, a remporté les législatives ce dimanche. Loin d'être écrasante, la victoire de la CDU a toutefois un arrière-goût amer. Pascal Thibault était au QG du parti.
Une victoire teintée de beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. On a fêté au siège de la CDU la victoire du parti hier soir, mais avec moins de 30% des voix, il ne sera pas simple de constituer une coalition. Friedrich Merz, après avoir recueilli les applaudissements de ses troupes, a tout de suite souligné la gravité de la situation.
Je sais que ce ne sera pas facile, mais il nous faut le plus possible un gouvernement stable. Le monde ne nous attend pas.
Les résultats sont assez conformes aux sondages des dernières semaines. Il est clair depuis longtemps que les chrétiens-démocrates privilégient une nouvelle coalition avec les sociaux-démocrates, cette fois les grands perdants. Alexander Grün, un militant de CDU de 26 ans.
Nous aurions aimé dépasser la barre des 30%, mais nous sommes en tête. Nous espérons qu'une coalition avec le SPD aura une majorité.
L'écart important entre les deux forces devrait permettre aux chrétiens démocrates de s'imposer plus facilement que dans le passé. Le militant de CDU, Sébastien Haas.
Friedrich Merz a formulé un cap très clair sur les grands axes, l'économie, l'Europe, les questions migratoires. Ce sont ces propositions qui seront la base de toute négociation avec d'éventuels partenaires politiques pour la formation d'un gouvernement.
Mais le SPD, qui a déjà annoncé être disponible pour des négociations, compte bien arracher des concessions aux conservateurs. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et Friedrich Merz qui veut un gouvernement aussi vite que possible, notamment pour faire face aux défis internationaux, l'Ukraine et la sécurité en Europe au premier plan. Ce lundi marque en effet les 3 ans du début de l'agression russe, le 24 février 2022. À cette occasion, RFI se mobilise, matinale en partie délocalisée à Kiev, ce lundi, autour d'Andréane Mellard. Rendez-vous à 6h, temps universel. Le pape François toujours dans un état critique. Annonce du Vatican dans son dernier bulletin de santé publié dimanche soir. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé pour une pneumonie depuis le 14 février et de nombreux fidèles partagent leurs vœux et leurs prières pour le rétablissement du pape argentin. Notre correspondant Eric Sénan a rencontré Salvatore aux abords de la place Saint-Pierre à Rome.
C'est une grande douleur de savoir qu'à son âge, il est sur un lit d'hôpital, probablement à souffrir. Les dernières nouvelles d'hier sur sa crise respiratoire nous ont tous alarmés. C'est un pape qui a toujours été proche et que nous aimerions avoir près de nous. Ces paroles où il dit « Priez pour moi » à la fin de chaque discours me viennent à l'esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mon souhait, compte tenu de nombreux facteurs et craignant le pire en raison de son âge, c'est qu'il réussisse à avoir un contact, un dernier moment au milieu du peuple, avec ce peuple qu'il bénit depuis le début et à qui il demande une bénédiction. On lui souhaite donc vraiment un moment de sérénité, de joie, malgré la souffrance et l'épreuve physique. Et puis, bien sûr, on prie. Les miracles existent et nous espérons que le Seigneur puisse le garder longtemps.
En France, c'était au tour de Jordan Bardella d'arpenter les allées du Salon de l'Agriculture hier dimanche. Valérie Gasse, l'ambiance était très différente comparée à la visite la veille du chef de l'État.
Jordan Bardella est un peu en terrain conquis au Salon de l'Agriculture, là où pour Emmanuel Macron, il s'agissait cette année de pouvoir se déplacer sans susciter de colère ou de violence. Le président du RN est arrivé serein et détendu. Autour de lui, une foule enthousiaste s'est agglutinée très vite. Hommes, femmes et même enfants à la recherche d'un selfie. Et puis le président du RN s'est prêté aux inévitables dégustations, là, du fromage.
Bah c'est très très bon.
Faire une petite photo.
Très gentil, bien sûr.
Et quand les agriculteurs lui ont fait part de leurs préoccupations face à la concurrence déloyale aux accords de libre-échange, comme avec Emmanuel Macron, ils n'ont pas obtenu la même réponse.
On importe des produits, ça ne nous permet pas de produire en France.
En fait, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut une agriculture française qui produise et qui soit souveraine en 10 ans, ou est-ce qu'on veut que la multiplication des accords de libre-échange donne le sentiment qu'en fait, ceux qui prennent les décisions ne veulent plus une filière agricole, qui veulent nous rendre dépendants des importations.
Des déclarations différentes et pas la même ambiance non plus, pas de bulle pour protéger Jordan Bardella, un cordon de garde du corps solide mais sans écart. Les visiteurs, au contraire, on voit bien la volonté de montrer un Jordan Bardella au contact des gens, ce que le président de la République n'a pas vraiment pu faire hier. Le salon de l'agriculture, c'est aussi la bataille des images. Valérie Gasse avec Diego Tenorio au salon de l'agriculture.
Et puis des nouvelles à présent du Charles de Gaulle. Le porte-avions français vient d'arriver aux Philippines pour une escale historique. Une mission inédite dans la région Indo-Pacifique pour le géant de la marine française. Et le résultat d'une promesse du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, à son homologue philippin. Notre correspondante à Manille, Nemo Lecoq James, a embarqué sur le Charles de Gaulle.
Vous êtes sur le pont du Charles de Gaulle.
Le pont, c'est le toit du bateau. Ici, quand il est en pleine navigation, des avions militaires peuvent atterrir à 250 km/h. Guillaume Denis est le capitaine de vaisseau du Charles de Gaulle, un porte-avions unique au monde.
Il n'y a que 2 pays, bientôt 3 dans le monde, qui mettent en œuvre des porte-avions avec catapultes. Et donc les 2 seuls pays pour l'instant, c'est la France et les États-Unis. Le 3e pays qui est sur le point d'en mettre un au point, c'est la Chine.
L'escale du Charles de Gaulle aux Philippines est donc historique, mais surtout symbolique. Dans un contexte de tension accrue entre les Philippines et la Chine, en mer de Chine méridionale, c'est le signe d'une coopération militaire grandissante entre Paris et Manille. L'ambassadrice de France à Manille a d'ailleurs insisté sur l'importance de créer de la confiance entre les 2 pays.
L'aspect le plus important de ce que nous essayons de faire ici, c'est de renforcer les liens, de mieux se comprendre mutuellement. Parce qu'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que si quelque chose arrive et que nous avons besoin d'interagir, si nous n'avons pas été entraînés avant, ça sera beaucoup plus difficile.
Prochaine étape, l'aboutissement d'un accord de défense réciproque, encore en négociation entre les 2 pays. Pour l'instant, les Philippines ont déjà conclu des accords similaires avec les États-Unis et l'Australie. Nemo Lecoq James, Manille, RFI.
Et à Manille, il est 10h passées de 10 minutes, 3h10 à Paris.